Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
Dans C'était il y a, on va revenir 70 ans en arrière, au mois d'octobre 1950, avec la première grande bataille de la guerre d'Indochine, la bataille de la RC4, la route coloniale 4, avec ses lieux de combat qui sont parfois oubliés comme Cao Bang, Donkey, Tatke ou encore Langson. Nous sommes en compagnie du commandant Yvan Cadeau, officier et historien au service historique de la Défense, auteur du livre « La guerre d'Indochine ». Je vous le montre, c'est un livre extraordinaire publié chez Taillandier. Yvan Cadeau, bonjour.
Bonjour monsieur.
Bienvenue sur Sud Radio. La guerre d'Indochine est commencée depuis 4 ans, puisqu'elle a commencé en 1946. Quelle est la situation sur le terrain au moment du déclenchement de cette bataille de la RC4 ?
À la veille de la RC4, on peut considérer que la situation en Indochine est dans une impasse. Les Français reviennent à l'automne 45. 45-46, ce sont deux années où on alterne négociations et opérations.
Notamment avec Ho Chi Minh.
Notamment avec Ho Chi Minh, effectivement, l'un des leaders d'un parti nationaliste d'obédience communiste, et c'est lui qui va l'emporter sur tous ses homologues. Et finalement, à son initiative, devant l'antagonisme des positions respectives, la guerre est déclenchée le 19 décembre 46. 47, 48, 49, ce sont en fait des années où aucun des adversaires ne peut l'emporter l'un sur l'autre. La faiblesse des effectifs du corps expéditionnaire français est telle que finalement, on ne peut pas mener de grandes opérations. Et donc, nous sommes dans la passe, et un événement international majeur, l'arrivée des communistes chinois à la frontière, va changer la donne.
Justement, cette bataille, elle se passe au Tonkin, le nord du Vietnam, à la frontière avec la Chine. Une Chine qui vient de tomber dans les mains de Mao Tse-Tung, ça va avoir de lourdes conséquences sur la guerre d'Indochine. On va parler de ça, c'est de la guérilla à la guerre tout court.
Eh bien, effectivement, c'est ce qu'on appelle un changement de posture. La guerre change totalement de nature. D'une guerre coloniale, où la guérilla généralisée était l'emploi pour l'adversaire et du côté des Français, on faisait de la pacification. Eh bien, désormais, on va passer à une guerre type guerre froide où l'adversaire, Ho Chi Minh et les siens, vont pouvoir, en Chine communiste, désormais s'instruire, s'équiper, manœuvrer, apprendre la vraie guerre.
Et c'est la deuxième guerre en même temps en Asie avec la guerre de Corée qui a commencé en juin de 1950. Cette route coloniale 4, quelle est son importance stratégique ?
Elle est fondamentale. Elle a été construite en fait dans l'entre-deux-guerres. Normalement, le projet était un projet très important de rocade qui allait jusqu'au Laos.
Ah oui.
Et finalement, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale va rendre ce projet caduque. Et donc, elle s'arrête un peu au-delà de Cao Bang. Mais elle est fondamentale puisqu'elle est parallèle à la frontière avec la Chine. Et donc, elle est censée protéger le Tonkin de toute incursion chinoise ou de toute incursion, comme on disait à l'époque, de pirates, parce que même si la Chine, avant 1949, est normalement occupée par des nationalistes, le Viet Minh se fournit en Chine tout son armement.
Tout son armement, oui. Alors, si on regarde l'état des forces au moment de la bataille, 4000 Français, légionnaires et Marocains et 1000 supplétifs vietnamiens, face à environ 30 000 Viet Minh, la bataille était perdue d'avance. Est-ce qu'on pouvait l'éviter ?
Alors, il n'y a pas de bataille perdue d'avance, déjà. Ensuite, effectivement, 30 000 Viet Minh. Alors, on dit Viet Minh, mais on peut les nommer. C'est l'armée populaire du Vietnam. C'est devenu une vraie armée, encore embryonnaire, mais qui dispose effectivement de tous les atouts d'une armée. Ils n'interviennent pas en même temps, ces 30 000 hommes. Donc, il y a une disproportion réelle des forces, localement. Mais les erreurs conduites par certains militaires français vont amener la défaite. Mais elle n'était pas perdue d'avance. Il y avait plusieurs options possibles. Et dans le contexte de l'époque, effectivement, certains ont sous-estimé la valeur de l'armée populaire et sa capacité à manœuvrer, surtout.
Alors justement, évacuer Cao Bang, ça aurait été plus facile par la RC3, la route coloniale 3. A-t-on commis des erreurs stratégiques ?
Trois options s'offraient pour l'évacuation de Cao Bang. On voulait évacuer Cao Bang depuis le printemps 49, et puis finalement on a reporté ça, notamment du fait de l'arrivée des Chinois à la frontière, et donc il fallait bien quelqu'un pour garder un petit peu la maison, si vous voulez.
Oui.
Et donc on a reporté, et de report en report, on arrive à cette situation où finalement on dit que Cao Bang ne sert plus à rien, Cao Bang est ravitaillé par avion, non plus par la route, et donc soit on évacue la garnison par les airs, risqué, parce que ça veut dire qu'on peut sacrifier des hommes à terre au tout dernier moment, soit effectivement la RC3, c'était un itinéraire un petit peu plus long, sans doute moins dangereux, et encore, quoique, il pouvait laisser le temps au Viet Minh de se regrouper. Et puis, il y avait la RC4. Alors, de toute manière, il n'y avait pas de bonne solution.
Il
n'y avait pas de bonne solution.
On a tout tenté pour essayer de sauver la mise. Le premier BEP, les paras de la Légion, le premier bataillon étranger de parachutistes, a sauté sur Tatke les 17 et 18 septembre. Sur 500 hommes, seule une petite trentaine survivront au combat.
Oui, les pertes de la bataille de la RC4 route coloniale 4, ou on appelle plutôt volontiers aussi la bataille de la zone frontière, parce que c'est le cas, eh bien, vont être effroyables du côté des Français. Le premier BEP, en fait, il est largué un petit peu avant, et justement pour participer à cette évacuation, hein, sur le papier, le schéma il est très simple, on fait monter une colonne, celle du lieutenant-colonel Lepage, 2700 hommes environ, et qui doit, à mi-chemin, on va dire, eh bien, retrouver les gens de la garnison de Kaobang, commandée par le lieutenant-colonel Charton, 2200 hommes environ, mais avec un bon millier de civils déclopés et de gens inaptes à la marche. Tous ces gens-là doivent se retrouver. Et donc, l'impératif pour gagner, c'est la vitesse. La vitesse d'entreprise, de la manœuvre. Ça ne va pas être le cas.
Ça ne va pas être le cas. Est-il exact qu'il y a eu des fuites qui ont permis au général Giap, général Viet Minh, de se préparer à cette attaque dès l'émission du rapport Revers, indiscrétion qui, selon Roger Vibault, qui était un des patrons du renseignement, n'avait pour objectif que de renverser le gouvernement Queuille afin d'amener Pierre Mendès France au pouvoir?
Alors, il y a pas. En fait, le rapport Revers auquel vous faites allusion, hein, c'est le rapport fait par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Revers, en mai 49. Il va y avoir en juin 49, pardon, il va y avoir des fuites sur le volet politique, mais il n'y a pas d'incidence, si vous voulez, directe, à mon sens, entre ces fuites et la défaite des Français. On oublie trop souvent, lorsqu'on étudie la guerre d'Indochine, que l'adversaire aussi, il a son propre tempo, il a sa propre stratégie. Donc finalement, les erreurs françaises, donc ses victoires à lui, ne sont pas uniquement dues, finalement, aux fautes des Français, où il ne faut pas y trouver forcément des fuites de diverses natures, politiques ou militaires.
Quelle est la principale conséquence de cette bataille ?
Bah, la principale conséquence, déjà, c'est une panique locale. Hein. On cherche et on pense à évacuer Hanoï, Haïphong. Mais à l'époque, le gouvernement français n'est pas encore prêt à lâcher l'Indochine. Et donc, la conséquence, c'est un sursaut. On va nommer un chef prestigieux qui va, pour la seconde fois en Indochine, disposer au pouvoir à la fois politique et militaire, c'est le général Delattre de Tassigny.
Vous avez d'ailleurs écrit un livre passionnant sur Delattre, je le montre Yvan Cadeau, Delattre, c'est publié chez Perrin. Delattre, un grand chef, mais qui va vivre un drame, son fils va être tué.
Son fils, effectivement, trouvera la mort au mois de mai 1951. Et Delattre, de toute manière, il est envoyé pour, justement après Kaobang, obtenir l'aide américaine. Et puis ce qu'on appelle faire l'armée vietnamienne, c'est la mission de Delattre finalement, c'est de passer la main au gouvernement vietnamien favorable aux Français. Mais il ne se fait pas d'illusions, hein, Delattre. Delattre, il écrit très bien en septembre 51, il peut survenir une catastrophe en Indochine, pas un miracle. Et la conséquence majeure, c'est qu'à partir du moment où maintenant les Chinois sont là et aident le Viet Minh, eh bien il va être très dur sans un effort de la nation eh bien, de gagner militairement cette guerre.
Est-ce que la bataille de la RC4, qui est la première grande bataille de la guerre d'Indochine, n'aurait pas dû donner la certitude à nos politiques, on parlait de Mendès France ou de Queuille il y a quelques instants, que cette guerre était ingagnable, même si vous le dites, aucune bataille n'est perdue d'avance.
Alors, effectivement, après la bataille de la RC4, pour la première fois, Mendès France prend la parole sur l'Indochine et dit, soit on négocie avec ceux qui nous combattent, ce que refuse à faire le gouvernement français à l'époque, c'est-à-dire on négocie avec le Viet Minh, soit eh bien, on engage le contingent, on met le paquet, etc. Évidemment, à l'époque, la France n'a pas les moyens de mener une telle politique. Et donc, finalement, on fait un compromis, on reste, on nomme Delattre sur place, mais on sait maintenant eh bien, que militairement, elle ne peut pas être gagnée, que la situation ne peut être que politique. Et donc, c'est politiquement qu'on va faire l'effort, ça ne suffira pas.
Ça ne suffira malheureusement pas et ça se terminera 4 ans plus tard dans le désastre de Dien Bien Phu le 7 mai 1954 avec la reddition du camp retranché. Merci beaucoup Yvan Cadeau. Je rappelle que vous êtes historien au service historique de la défense, officier, commandant et auteur des livres La guerre d'Indochine. Un livre, alors c'est une bible sur la guerre d'Indochine et Delattre, deux livres absolument passionnants qu'il faut lire pour comprendre cette période de notre histoire. Vous êtes bien sur Sud Radio, 7h55, dans la prochaine demi-heure, le livre du dimanche, Dessine-moi un avenir de Rodrigo Arinas, Édouard de Godot et Nathalie Laville. C'est un livre sur l'école, ensuite on aura la sélection musicale de Bruno Dubois et on parlera du pasteur Don, c'est la semaine, dont Cécile de Minibus et la marraine. Restez bien avec nous sur Sud Radio.